Bienvenue sur les ondes de Paste FM 99.4, il est 20h passé de quelques 25 minutes. Donc vous êtes en direct sur les ondes de Pastel FM 99.4, je le disais, dans l'émission La Prophétie, que vous rencontrez tous les vendredis de 20h jusqu'à 22h, qui vous est proposée par l'association Rencontre et Dialogue, l'association ARD, que vous pouvez joindre à la maison des associations Boulevard de la Liberté à Roubaix ou directement ici sur les ondes de Pastel FM. Boîte postale 59054 ou BCDEX 01, émission La Prophétie, voilà. Ensemble avec nous ce soir, Abdelwahem, qui est enseignant à l'Institut Iman de la Mosquée de Ville-Sud, donc qui intervient en tant que pour le domaine du FIRC. Et il vient ce soir nous présenter la thématique suivante sur le moyen de se concentrer pendant Salat, les actes de qui tournent autour de l'office de la prière en l'occurrence. L'Institut Iman, bon, je pense que c'est connu de beaucoup, hein, de la Mosquée Lille Sud, qui organise un certain nombre d'enseignements, donc tu interviens notamment pour le FIA, je le disais. On va toucher quelques mots très rapidement et on va juste rappeler aussi qu'à la rentrée, vous organisez une journée porte ouverte pour présenter les différentes activités. Toi, tu interviens essentiellement le lundi et le vendredi, donc c'est en fin d'après-midi, à partir de 18h jusqu'à 20h, donc de façon régulière autour du FIRC, mais il y a d'autres enseignements. On détaillera l'ensemble de l'organisation de l'Institut Iman, ça permettra de rappeler aux auditeurs le contenu et d'offrir éventuellement à ceux qui sont intéressés de participer à cette structure. Vas-y, je t'en prie, sans plus attendre, puisqu'on a déjà avancé dans le terre.
A'ouz billahi samia al-ani min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'iduhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'ouz billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu subhanahu wa ta'ala fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته chère auditrice, chers auditeurs, je vous salue par le salut de l'islam qui est celui de la paix. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et je remercie les frères de l'émission, Bismillah, Pastel FM, de m'avoir convié pour partager ce moment spirituel avec vous ces quelques temps. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner la lumière, inshallah ta'ala, pour que vous compreniez ce que j'ai à vous transmettre. Notre propos, inshallah ta'ala, tourne autour de la prière, ou ce que je préfère appeler la salat, qui est un terme beaucoup plus général que prière, qui veut dire invocation, notamment dans le registre catholique. Donc je vais plutôt utiliser le terme as-salat pour parler de la prière. Comme vous le savez très certainement, la salat est l'acte de l'adoration qui nous rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. La salat est le deuxième pilier de l'islam après l'attestation de foi. Après que le prophète alayhi salatu wassalam ait cité le premier pilier, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager, il a mis au deuxième rang la prière, iqamatu salat, l'accomplissement de la prière. Et vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette éloquence dans les propos et la précision, chaque parole et chaque terme a sa place qui lui revient. Comme d'ailleurs, on trouve cela dans Al-Qur'an Al-Karim, à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé les prières juste après l'attestation de foi, ça montre qu'elle occupe une place privilégiée. Rappelons-nous aussi que la salat sera la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur yawm al-qiyam. D'après le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. La première chose sur laquelle sera jugé le serviteur yawm al-qiyam, le jour du jugement dernier, est la salat. Fa idha salahat salaha 'amalu sa'iru 'amali. Si cette prière est acceptée, ses autres œuvres le seront également. Wa idha fasadat fasada sa'iru 'amali. Et si cette prière n'est pas acceptée, les autres œuvres ne le seront pas également. Donc, ce simple hadith, très important, montre son importance. Car on œuvre tous, bi-idnillahi azza wa jal, pour l'au-delà, fil-akhira, chacune de nos œuvres. Pour comprendre l'importance de la salat, donc de la prière, il faut revenir aux circonstances de sa prescription, à l'époque de la révélation coranique. La prière est particulière dans le sens où elle a été prescrite au prophète alayhi salatu wassalam au-delà des sept cieux. Tous les actes d'adoration ont été prescrits au prophète sallallahu alayhi wassalam à travers la révélation coranique, donc à travers l'ange Jibril alayhi salam
sur terre.
Naam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un honneur, la prière. Certains considèrent la prière comme un fardeau. Je vais encore prier. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début, dès sa prescription, c'était un cadeau, hadiya, qu'il a fait au prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'à sa communauté. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, lors de ce voyage célèbre, al-Isra wa al-Mi'raj, donc le voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de la Mecque à Beit al-Maqdis, hein, la mosquée de Al-Aqsa,
à Jérusalem.
Et de là, je ne rentre pas trop dans les détails, sinon il nous faudrait beaucoup plus de temps. Et de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté de ciel en ciel jusqu'à atteindre Allah subhanahu wa ta'ala au-delà des sept cieux. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré ce qu'il a voulu lui montrer, Azza wa Jal. Et c'était un honneur au prophète alayhi salatu wassalam. Et il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a prescrit au départ 50 prières qui sont devenues réduites au nombre de 5 lorsqu'il a fait l'aller-retour entre Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salam a fait l'aller-retour entre Allah et Moussa alayhi salam. Donc 5 prières sur terre, donc c'est les 5 prières obligatoires que l'on fait chaque jour, mais la récompense, comme vous le savez certainement, est de 50 prières. Chaque prière équivaut à 10 prières. Donc, cette prescription directement par Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance de cette prière. Et c'est pour cela qu'il convient pour chacun d'entre nous de revenir sur ce moment historique qui est important et aussi de connaître les règles liées à la prière. Le hadith de référence concernant la prière, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli »« Sallu kama ra'aytumuni usalli » Un hadith qui est très court, « Priez comme vous m'avez vu prier » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle dans la pratique religieuse. Et donc, lorsqu'on doit prier, on doit se conformer à la pratique du prophète alayhi salatu wassalam. Je reviendrai tout à l'heure, inshallah ta'ala, pour expliciter ce hadith du prophète sallallahu alayhi wassalam que l'on ne comprend pas toujours comme il le faudrait. Le prophète sallallahu alayhi wassalam, après qu'il ait reçu cette prescription noble, la prière, le restant de sa vie, il s'est attaché alayhi salatu wassalam à la vivre. À la vivre physiquement, mais surtout spirituellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelque chose le peinait, il se mettait en état de prière. فَإِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى. comme cela est rapporté dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'arrivé l'heure de la prière, il se retournait vers Bilal, le muaddin, celui qui a fait l'appel à la prière, et il lui disait « Arihna biha ya Bilal, repose-nous par elle, ou Bilal. Mm-hmm. » Il ne disait pas « Arihna minha, repose-nous d'elle. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait la prière comme un repos, mm-hmm. Raha. Le terme repos en arabe c'est arraha. Arihna biha ya Bilal. Il y a un contraste entre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sentiment que pourrait avoir un certain nombre d'entre nous, des fois. On considère la prière comme quelque chose qui fatigue. Mm-hmm. C'est encore l'heure de la prière. Je viens de prier al-Asr, c'est déjà al-Maghrib. Je viens de prier al-Isha, c'est là déjà al-Subh. Cette façon de comprendre la prière n'est pas celle du prophète et des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit lui-même, ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salat. La prunelle de mon œil se trouve dans la prière. La prière est la chose qu'aimait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un point où Aïcha radiyallahu ta'ala anha, son épouse, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était seul chez lui, donc il pouvait se le permettre, alayhi salatu wa sallam, il priait longuement. Mm-hmm. À un point où ses pieds enflés se fissuraient même, et Aïcha, le regardant faire, lui disait, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ne vas pas tu cesser, alors que Allah Azza wa Jal t'a pardonné tous tes péchés, antérieurs et postérieurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait Al-ala akunu abdan shakura. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Donc la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous passe par la pratique. Mm-hmm. Et quelle plus noble pratique que la prière? Mm-hmm. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, je le répète bien, il était seul, il allongeait les prières. Mm-hmm. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière dans la jama'a, il disait que celui qui dirige la prière, qu'il fasse de telle sorte qu'elle soit écourtée, légère, car derrière lui, il y a des gens malades, marda, mm-hmm. des gens qui ont des occupations, et des gens qui sont âgés. Mm-hmm. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans le groupe, il tenait compte de la particularité du groupe, alayhi salatu wa sallam. Je reviens au hadith que j'ai cité tout à l'heure, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Lorsque on lit ce hadith de premier abord, littéralement, on pourrait croire qu'il ne faut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans sa pratique gestuelle. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. faisait son takbir, l'entrée en prière? Comment il levait les mains, alayhi salatu wa sallam? Comment était son recours, son inclinaison? Comment était sa prosternation, as-sujoud? De quelle façon il récitait alayhi salatu wa sallam? Mm-hmm. Quelle surat il récitait? Tout cela est contenu dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. Hein, je peux allonger la liste de mm-hmm. la description gestuelle pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est très important.
Bah c'est ce sur quoi on se base pour faire nos prières, puisque c'est pas contenu dans le Coran la façon dont on peut faire la prière. Voilà. C'est sur la pratique elle-même de la tradition du prophète.
Tout à fait. Dans le Coran, beaucoup de versets coraniques développent, énoncent les règles. Mm-hmm. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va venir expliciter, qui va venir compléter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Cela m'amène à dire, en complément de ce que vient de dire mon frère Aïssa, qu'on ne peut pas s'attacher au Coran en délaissant la sunna. Mm-hmm. Lorsqu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, mm-hmm. j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est son messager, c'est dire que, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, Iyaka na'abud, Iyaka urid, bima turid. C'est Allah que je vise, mais pas de n'importe quelle façon, bima turid, selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, et la voie tracée, c'est celle qui est laissée par le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Donc c'est quelque chose de très important. Aussi, ce hadith il ne faut pas oublier de dire également que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une prière intérieure. Donc le sens spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il était avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, dans la définition de la salat, en arabe, c'est as-salatu silatun bayna al-'abd wa rabbi. La prière, la salat, est le lien entre le fidèle, le serviteur, et son Seigneur, son éducateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce lien ne peut pas avoir lieu sans la présence du cœur pendant la prière. Et c'est, inshallah ta'ala, ce qu'on va essayer d'expliciter dans ce qui va suivre.
Ouais, effectivement, souvent on s'attarde, tu l'as bien précisé, sur le hadith « Priez comme vous m'avez vu prier », souvent, bon, malheureusement, c'est aussi source de polémiques sur la gestuelle, sur la façon dont il faut positionner ses mains, sur le à quelle hauteur faut-il lever les mains. Enfin, bon, ça, on oublie souvent la part peut-être la plus importante. Je sais pas, on y reviendra après la courte pause sur le recueillement. Donc en arabe, ça se dit
al-khushu'.
Voilà, le recueillement, la concentration dans la prière. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile.
C'est un terme, d'ailleurs, le terme al-khushu', c'est un terme qui est, comme beaucoup de termes arabes, difficile à traduire. Mm-hmm. On essaye de s'approcher du sens arabe en traduisant par le recueillement, par la concentration, par l'humilité. C'est tous ces termes que l'on trouve dans les traductions. Mais en réalité, le terme al-khushu', il est beaucoup plus profond que cela, en termes de sens. Et comme tu l'as précisé, c'est vrai que certains, il y a des querelles dans la façon de positionner les mains, la façon de réciter, etc. Ce qui est de l'ordre, j'allais dire, de l'irtilaf, de la divergence jurisprudentielle, et notre position par rapport à ça, c'est bien évidemment la souplesse et l'acceptation des avis qui sont fondés. Il y a des avis qui sont fondés, notamment à travers les imams, les grands imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Abu Hanifa, et d'autres, et d'autres avis. À partir du moment où l'avis est fondé et qu'il repose sur un ijtihad issu de le Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut avoir le cœur grand et accepter la différence.
Bien sûr. Bah, disons que si entre eux déjà ils ont des avis différents avec le niveau qu'ils ont de connaissances et comme tu dis l'ijtihad qu'ils ont effectué juste avant, c'est pas notre niveau qui allons trancher en disant un tel a tort et l'autre. Bon, ça c'est des questions polémiqueuses qui on va pas trop les aborder, mais en tout cas
on peut être convaincu par un avis sans pour autant l'imposer aux autres. C'est ça la règle, wallah.
Voilà, exactement. Baklofik, Farid, on va s'opérer une très courte pause et on va revenir sur la deuxième partie qui a trait au recueillement. Je traduis par ce terme en français, mais on va essayer de donner une définition plus profonde sur le thème de ce soir. Farid, tu peux me lancer pendant 5 minutes, ça devrait aller, chaud. Ça, d'accord, on va regarder, mais après, c'est quelques versets de sur la Tuyusouf. Avant de reprendre donc, sur le thème de ce soir avec Abdelwahab, sur le thème du Khushu', sur le traduit par recueillement, en attendant qu'on ait une définition plus précise suite à ton exposé. Juste un petit rappel pour les auditeurs et les auditrices. Je rappelle le numéro du standard, le 0320 73 59 00. Si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Et notamment, on est en train de préparer, puisqu'à la rentrée, ça va se faire très très rapidement, mais il faut compter vers le 13 septembre, autour du 13 septembre, le début du mois de jeûne de Ramadan. Et comme vous savez, on organise chaque année des émissions plus, c'est-à-dire plusieurs créneaux, notamment créneaux le lundi, le mercredi et le vendredi. Et donc, on fait appel à vous si vous voulez y voir traiter tel ou tel thème, plutôt que de vous imposer à chaque fois des thèmes, même si on a quelques retours. Vous pouvez toujours nous appeler et nous proposer si vous avez des propositions à faire, si vous voulez que certains intervenants puissent traiter de tel ou tel thème qui vous tient à cœur, il n'y a pas de souci, vous nous appelez et vous nous transmettez un petit peu vos propositions. 0320 73 59 00, c'est le numéro du standard. Donc voilà, l'appel est lancé. Abdelwahab, On revient sur, on a parlé de Salah d'une manière générale, on a insisté sur le fait que le professeur Salam a dit qu'il fallait prier tel que de la façon telle qu'il avait accompli lui-même le Salat. Sans vouloir trop s'attarder sur la gestuelle, on va s'attarder sur l'aspect plus spirituel et ce qu'on traduit par recueillement en arabe, khushu'. Donc, vas-y, je t'en prie pour ce développement.
A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi barakallahu fik ya khayr. Donc oui, je reviens avec ce thème autour de al-khushu', al-khushu' fi salat, donc le recueillement dans la prière.
Vas-y, je t'en prie pour poursuivre.
Allah subhanahu wa ta'ala dans Al-Qur'an a parlé de Al-Khushu', du recueillement, notamment dans une sourate qui est une sourate importante, qui porte d'ailleurs le nom de Al-Mu'minun, la sourate des croyants. Et pour vous montrer l'importance de ce Khushu', de ce recueillement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dès le premier verset, il nous dit « Ba'da a'ouz billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qad aflaha al-mu'minun » Bienheureux sont certes les croyants. Qad, bita'kid wa ta'kid. Certes, les croyants sont heureux. Hein, c'est une certitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va citer justement les caractéristiques de ces croyants qui sont heureux fait dunya et qui le seront fait al-akhira, insha'Allah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence par la prière. Qad aflaha al-mu'minun. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Les croyants qui sont humbles, c'est la traduction que l'on a dans le Coran, qui sont humbles dans leur prière, qui sont recueillis dans leur prière. Ceux qui sont et qui vivent ce recueillement dans la prière, ils sont bien heureux fi dunya, ils le seront fi l'akhirah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite des versets, il donne d'autres caractéristiques de ces croyants, والذين هم عن اللغو معرضون, qui se détournent des futilités, والذين هم للزكاة فاعلون, qui donnent la zakat, والذين هم لفروجهم حافظون, ils font attention bien évidemment à l'usage de leur sexe, ils le préservent, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون الأمانة le dépôt qu'il faut restituer والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ce qui est intéressant dans ces 10 premiers versets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala commence à parler des caractéristiques des croyants qui sont et qui seront heureux en commençant par la prière, le recueillement dans la prière, et il finit par la prière. Pour montrer l'importance, une boucle, hein, part de la prière de l'khushu' pour revenir à l'assiduité, alladhina hum ala salawatihim yuhafidun, qui sont assidus dans leur prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ulaika humul warithun, alladhina yarithuna al-firdausa, hum fiha khalidun. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis, Al-Firdaus, le plus haut degré du paradis, pour y demeurer éternellement. Donc, ces quelques versets du début de la Sourate Al-Mu'minun, les croyants nous indiquent et nous montrent l'importance de ce khushu'. Maintenant, il s'agit de comprendre c'est quoi le khushu'. Qu'est-ce que le khushu'? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et pour expliciter cela, il faut revenir à nos savants, radiallahu ta'ala anhum, qui ont pris le temps d'expliquer ce terme, et bien évidemment parce qu'ils ont pu le vivre, hein, ils ont pu vivre al-khushu' dans leur prière. Al-khushu', on pourrait dire que c'est l'esprit de la prière, ruh as-salat. Une prière sans khushu' est-elle un corps sans âme? On sait que le corps sans âme, c'est une dépouille mortuaire. Il est mort. Une prière, une salate, où il n'y a pas de khushu', c'est ainsi. Donc ça montre l'importance de cet élément. Et l'imam al-Junayd, rahimahullah ta'ala, nous dit « Al-khushu' huwa tadallul al-qulub l'allam il ghuyoub. Le khushu', c'est l'humble humilité du cœur devant celui qui connaît le monde invisible, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle du khushu', c'est parler du cœur, de l'qalb, de la présence du cœur. Est-ce que ton cœur, ma sœur, mon frère, est dans ta prière avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'il est occupé par ce bas monde? Donc Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu, le noble compagnon, nous met en garde. Il nous dit: iyakum wa khushu'un nifaq. Faites attention au khushu', au recueillement qui est mêlé à une certaine, auquel est mêlé une certaine hypocrisie, un nifaq. On lui dit alors: wama khushu'un nifaq. C'est quoi khushu'un nifaq? C'est quoi ce khushu' qui n'est pas sincère, ce khushu' qui n'est pas vrai? Imam radiyallahu ta'ala anhu répond: qala an tara al-jasad khashi'an wal-qalb laysa bi-khashi'. Ce khushu' hypocrite qui n'est pas vrai, c'est d'avoir l'impression que tu es recueilli, que ton corps est recueilli, et qu'en réalité ton cœur ne l'est pas. An tara al-jasad khashi'an, de voir, de laisser paraître le corps recueilli, celui qui te voit à travers ton aspect extérieur, à travers ta façon de te tenir, croirait que tu es avec Dieu. Mm-hmm. Mais en réalité, ton
cœur est ailleurs.
Est ailleurs. Mm-hmm. Il est loin d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça frise l'ostentation, je veux dire.
Ça
c'est
l'ostentation.
On montre aux gens, enfin, je ne sais pas si c'est délibéré, mais les gens interprètent ce qui n'est pas la réalité du cœur. Quoi.
Voilà. D'ailleurs, pour lier cela à l'ostentation, à Ria, il a été rapporté que dans les temps qui nous ont précédés, un homme priait dans une mosquée. Donc il priait, et à ses côtés il y avait quelques personnes qui l'observaient prier et qui faisaient l'éloge de sa prière, de sa salat. Mm-hmm. Quelle est belle sa récitation, que sont longues ses inclinaisons et ses prosternations. Masha'Allah. Et lui, il les entendait, et plus il disait de bonnes choses à son égard, plus il embellissait sa prière. Hey, il n'était plus avec Allah subhanahu wa ta'ala, il était avec les éloges des gens. Mm-hmm. À un point où, à la fin de sa prière, lorsqu'il a fait le taslim, parce que la prière finit par le taslim, mm-hmm, le fait de dire assalamu alaikum, assalamu alaikum, il s'est retourné vers eux et leur a dit: je suis également en état de jeûne. En plus de ce que vous dites, hein, sur moi, je suis en état de jeûne. Miskin, mm-hmm, il a tout cassé. Faqad habda ta'amalu. Il a réduit à néant ses actions. Alors qu'à la base, sa prière était censée lui pardonner ses péchés et de le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'il l'a faite pour les gens, qu'il a embelli sa prière pour les gens, il aura la récompense des gens. Mm-hmm. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce type de comportement, il faut qu'il se repente, ça demande un repentir sincère, car sinon, yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala dira, lorsqu'il demandera sa récompense, il dira: va demander la récompense auprès des gens pour lesquels tu priais. Mm-hmm. Donc il faut qu'on fasse attention à cela. Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu dit, après nous avoir expliqué que le khushu', ce n'est pas le paraître, c'est ce qui se passe à l'intérieur, l'aspect intérieur. Il dit: لكن الخشوع افتقارك إلى الله وعلمك بأنه ناظر إليك فتستحي منه. Le khushu', c'est plutôt ta dévotion devant Allah et ta prise de conscience qu'il t'observe. C'est ça le khushu'. Mm-hmm. Tu es devant ton Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, tu es craintif, tu te sens faible devant lui, c'est lui le Dieu, c'est toi le serviteur. Tu baisses la tête, tu regardes ton lieu de prosternation et tu sais pertinemment qu'il t'observe. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi sallam s'est présenté à lui, il lui a posé le hadith célèbre, le hadith de Jibril, il lui a posé la question: qu'est-ce que l'islam? Il a répondu par les cinq piliers de l'islam. Il lui a posé la question: qu'est-ce que la foi? Il lui a répondu par les six piliers de la foi. Il lui a posé la question: qu'est-ce que l'ihsan? Le degré de l'excellence. Ma huwa al-ihsan ya Rasulallah? Qala an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. l'excellence est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Mais sache que si tu ne le vois pas, lui certainement te voit. Donc lorsqu'on est envahi par ce sentiment que Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, on a honte. Nastahi. On a honte de se détourner de lui et de se préoccuper par autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça me rappelle une sorte d'anecdote que j'avais lue dans un ouvrage qui parle de ce thème. Effectivement, on disait, toute proportion gardée bien sûr, que c'est comme si on pouvait s'adresser par exemple à son chef de service ou à son patron, qu'on a un entretien avec lui et qu'on l'observe pas, ou qu'on regarde à côté, qu'on regarde sa montre, qu'on regarde son portable, tout en ayant un entretien avec son patron. Je veux dire, c'est pas dans la conscience de quelqu'un qui a un entretien avec son chef de service ou son patron d'être complètement ailleurs, de discuter ou de répondre au portable à ce moment-là. Et pourtant, malheureusement, c'est ce que...
D'ailleurs, dans la continuité de ce que tu dis, on n'envisage pas qu'une personne qui a un entretien d'embauche puisse y aller sans se préparer. Ça demande une certaine préparation, autant sur le fond que sur la forme, la tenue vestimentaire en fonction du poste, etc. Donc on se prépare pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire donc de la préparation lorsque l'heure du dépôt, l'heure de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala arrive. On citera tout à l'heure comment les compagnons se préparaient pour nous montrer à quel point ils sont arrivés en termes de khushu'. Et on va comparer leur degré et le nôtre. Et on verra, inshallah ta'ala, qu'il y a du travail à faire, mais il ne faut pas désespérer, car il y a des moyens, il y a des pistes, bien évidemment, pour vivre al-khushu', ou tout au moins s'approcher de ce que vivait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, dit « Inna ar-rajulayni min ummati la yaqumani ila salati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid » Deux hommes de ma communauté prient leur salat d'une même pratique de l'inclinaison et d'une même pratique de la prosternation. Mais leurs deux prières sont comparables à ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Donc, à travers l'aspect extérieur, ils font la même inclinaison, ils font leur prosternation de la même façon. Donc, celui qui les observe, un observateur qui les regarde se dirait que leur prière est identique. Mais en réalité, le prophète Al-Sam dit, il y a, en termes de khushu', la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Donc un est avec Dieu, son cœur est avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre, bien qu'il fasse la même inclinaison, la même prosternation, il est avec les occupations de ce bas monde. Et l'imam Al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, nous rajoute que il se peut que quelqu'un se prosterne devant Allah Azza wa Jal, croyant qu'il a atteint le summum, pensant que cela le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Al-Ghazali dit, si on répandait le péché de cette prosternation sur les gens de sa région, ils périraient. C'est-à-dire que c'est une prosternation qui était censée au départ le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il ne faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aqrabu ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa sajid » Dans la prosternation, c'est à ce moment-là qu'on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une recommandation, un conseil « Fa'aksiru du'a » Multipliez les invocations. Donc, si on est en état de prosternation et que le cœur est absent, on se cause du tort, et c'est pour cela que l'imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala a dit cette parole. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, en voyant un homme un jour s'amuser tout au long de sa prière avec sa barbe, il se retourna vers les gens, il leur dit, si le cœur d'un tel était recueilli, ses membres suivraient. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. Car le cœur est le maître du corps. Si le cœur est recueilli, les membres vont également suivre. Si le cœur n'est pas recueilli, les membres ne vont pas l'être. En d'autres termes, Omar ibn Khattab, comme le prophète alayhi salatu wassalam, nous recommande de ne pas faire trop de mouvements pendant la prière, un excès de mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se gratter la tête ou de bouger, ou de... pas du tout. Mais l'excès de mouvement est déconseillé pendant la prière, car il nuit justement au khushu' dans la salat. Alors, on va essayer de voir quelques éléments qui sont loin d'être exhaustifs pour vivre al-khushu', car les savants radiyallahu anhum ne nous ont pas laissé comme ça. كيف السبيل للخشوع؟ Comment arriver au khushu'? La première des choses, c'est tarku al-ma'asi, délaisser les désobéissances. On ne peut pas concevoir qu'un désobéissant, quelqu'un qui commet des péchés jour et nuit, puisse vivre ce sentiment de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala physiquement lors du voyage nocturne, le musulman lambda peut vivre cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette prière. Et donc cet élément est très important, et il faut avoir à l'esprit que on doit délaisser les désobéissances, al-ma'asi. Mm-hmm. Et c'est pour cela que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, s'est plaint à Waqi', qui est un grand savant et qui est très célèbre, un des maîtres de l'imam al-Shafi'i, et l'imam al-Shafi'i dit: Shakawtu ila Waqi'in su'a hifzi. Je me suis plaint auprès de Waqi' de ma difficulté à mémoriser al-hifz, mémoriser al-Qur'an. Qui d'entre nous aujourd'hui va voir l'imam, va voir un savant, demande un conseil d'un frère ou demande le conseil d'une sœur sur le plan religieux, sur le plan spirituel? Tu sais, cher imam, j'ai du mal à me concentrer dans la prière. Tu peux me donner un conseil, comment améliorer mon khushu'? Tu sais, cher frère, j'ai du mal à réciter Al-Qur'an. J'ai du mal à mémoriser Al-Qur'an. Tu ne connaîtrais pas un moyen qui favoriserait ma mémorisation? Peu d'entre nous qui...
C'est vrai. Je vais aller dans ton sens. C'est vrai que on le voit par rapport déjà à nos émissions. On a quand même, alhamdoulilah, beaucoup d'expérience à travers les émissions qu'on fait. Effectivement, beaucoup des questions qui sont posées à l'antenne, c'est du pratico-pratique, si je puis dire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser ce genre de questions, bien au contraire. Mais on a malheureusement rarement des questions comme tu viens de l'aborder. Je ne sais pas, peut-être c'est moi je m'avance aussi. C'est peut-être une honte de montrer que on a ces difficultés-là qui, je pense, qui est malheureusement très répandue, qu'on a du mal à travailler justement cette spiritualité, ce rapprochement avec Allah. Et à défaut de trouver les moyens, on préfère camoufler, alors qu'au contraire, il faut s'ouvrir. Et je veux dire, tu fais bien de l'aborder, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on encourage quiconque de toute façon, même si c'est à l'antenne, ça reste anonyme, si on n'ose pas se présenter devant quelqu'un. Mais il faudrait qu'on multiplie ces interrogations-là.
Tout à fait. Que ce soit d'ailleurs en termes de prière, que le jeûne, c'est bientôt le jeûne du mois de Ramadan, il faut s'y préparer. Il a été rapporté que les compagnons radiallahu ta'ala anhum se préparaient 6 mois avant l'arrivée du mois de Ramadan, et ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils puissent l'atteindre. Nous, souvent, lorsqu'on parle de préparation du mois de Ramadan, c'est est-ce qu'on a préparé Zlabiya ou les ingrédients pour la soupe, etc. Où est la préparation spirituelle? Lorsque je lis Al-Qur'an, où est la préparation? Lorsque je vais prier Al-Hajj, toutes les pratiques de l'islam ont un sens spirituel. Al-Hajj, ce n'est pas uniquement des rites, aller à Mecca, faire le tawaf, faire le sa'y, minan, etc. Est-ce qu'on oublie que Al-Hajj, c'est avant tout une pratique qui doit nous rappeler Yawm Al-Qiyam, où on est habillé d'une façon qui doit nous rappeler Yawm Al-Qiyam, où on est rassemblé fi Arafat, tous, que soit le gouvernant, que soit le gouverné, que soit le riche, que soit le pauvre, le faible, le puissant, tout le monde est réuni, hein, fi maqam wahid, dans une même station, comme s'ils allaient être jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a toujours ce sens spirituel dans toutes les pratiques religieuses et surtout dans la prière. Donc c'est pour ça que les salaf as-salih, les anciens pieux, nos pieux prédécesseurs, ont toujours recherché à améliorer et à aller de l'avant dans la quête spirituelle. Ils posaient des questions à leurs savants. Les élèves, les disciples posaient des questions à leurs savants. L'imam Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, un grand faqih parmi les tabi'in, les suivants, après les compagnons, Abdullah ibn Mubarak, on lui posa la question, quelqu'un lui posa la question, il y a imam, je n'arrive pas à me lever pour qiyam al-layl, pour la prière de nuit. Une question qui pourrait nous paraître de l'ordre de la cinquième dimension aujourd'hui. Je n'arrive pas à me prier la prière de la nuit, fasif li dawa, donne-moi un remède. Et lui dit, délaisse les péchés. Car, regardez, écoutez très bien ce qu'il dit, délaisse les péchés la journée, car celui qui commet des péchés la journée ne peut pas s'attendre à ce que son Dieu puisse lui permettre de se maintenir debout la nuit. Voilà les gens de... Par quoi ils étaient intéressés? Par l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'imam Shafi'i disait Waki'a rahimahullahu ta'ala shakawtu ila waki'a swahifdi fa arshadani ila tarkil ma'asi. Il m'a recommandé de délaisser les désobéissances. Il rajoute wa anba'ani bi'anna al-ilma nourun. Il m'a dit aussi que la science, al-ilm nour, la science est une lumière. Wa nourullahi la yuhda li'asi. Et la lumière d'Allah n'est pas donné aux désobéissants. Le savoir, al-ilm, c'est une science. Al-ilm, c'est une lumière, afwan. Et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas donnée aux désobéissants. Donc la première des choses, c'est de délaisser les désobéissances al-ma'asi. La deuxième des choses qui favorise al-khushu', c'est prendre réellement conscience qu'Allah nous observe. Si on n'a pas ce sentiment au fond de nous-mêmes qu'Allah Azza wa Jalla nous observe et qu'on a cette prière machinale, automatique, routinière, on se lève pour la prière de Subh parce qu'il faut prier Subh, on fait la prière de l'Asr parce qu'il faut prier l'Asr et que l'heure est arrivée de l'Asr, en oubliant la préparation, qu'on est devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ali Ibn al-Hassan Ibn Ali Ibn Abi Talib, le petit-fils de Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il se préparait à la prière, dès qu'il faisait ses ablutions, il devenait tout pâle. On lui dit un jour au imam, pourquoi cette transformation du visage alors qu'il fait ses ablutions, il n'est pas encore rentré en prière. Il répondait, ne savez-vous pas devant qui vais-je me présenter? Ne savez-vous pas devant qui vais-je me présenter? Il se prépare à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, en amont, pendant qu'il faisait ses ablutions, il était déjà en train de trembler. Il changeait, il devenait tout pâle. Donc, la chose qui va nous aider, c'est de savoir que Allah azza wa jal nous observe subhanahu wa ta'ala. Le troisième élément qui favorise al-khushu', c'est l'apprentissage et la méditation de l'Qur'an. Apprendre al-Qur'an et le méditer. Car la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée pour qu'elle soit comprise, pour qu'elle soit méditée et pour qu'elle soit appliquée. Et c'est pour cela que Aïcha radiyallahu ta'ala...
Vas-y, termine.
C'est pourquoi Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsque on lui a posé la question... Comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était basé sur al-Qur'an. C'était une application pratique de al-Qur'an. Et pour terminer par rapport à cet élément-là, il faut surtout s'arrêter sur surat al-Fatiha, l'ouverture, que l'on récite au moins 17 fois par jour et nuit, dans les 5 prières obligatoires. Allez, c'est un pilier, rukn min arkani salat. C'est un pilier de la prière.
si on délaisse volontairement la prière, la récitation de la Fatiha, la prière s'annule, mm-hmm. si on la répare pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal dit qasamtu as-salat bayni wa bayna 'abdi nisfayn wa li 'abdi ma sa'al. J'ai divisé la prière en deux, entre moi et mon serviteur. Fa idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil 'alamin, qala Allah Azza wa Jal hamidani 'abdi. Lorsque le serviteur dit louange à Allah le Seigneur des mondes, Allah répond hamidani 'abdi, mon serviteur me loue. Encore faudrait-il laisser le temps à la réponse. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et il a été rapporté de lui qu'il récitait Al-Fatiha et le Coran verset par verset. Aya, aya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Verset par verset, en attendant, en ayant à l'esprit qu'Allah nous répond. Allah, mon serviteur, me loue. Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Asna alayya abdi, mon serviteur me fait les éloges. Maliki yawmiddin, le roi du jour dernier. Majjadani abdi, mon serviteur proclame ma grandeur et ma majesté. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, jusqu'à la fin de la sourate, il faut avoir à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous répond. On doit attendre cette réponse spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est l'impact et l'importance de Al-Qur'an dans notre prière.
On a, me semble-t-il, un auditeur ou une auditrice. On va la prendre. Je sais, tu me l'as annoncé, Farid? Oui, allô.
Oui, allô, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Voilà, j'ai écouté un peu votre exposé, j'avais une question à vous poser.
Je vous en prie.
Voilà, donc en sachant que l'être humain était créé en fait imparfait, mm-hmm. avec des péchés, comment il peut justement parfaire sa pratique, mm-hmm. Je veux dire, tout au long de sa vie, il ne peut pas ressembler à un ange, quoi. Voilà.
D'accord. Donc merci pour votre question. Donc effectivement, l'être humain est de nature pécheresse, et on peut penser que ça soit incompatible avec la perfection, c'est-à-dire atteindre la perfection, notamment à travers nos actes d'adoration.
Tout à fait. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, dit kullu bani adam khatta, tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne faut pas désespérer de sa miséricorde, que celui qui désobéit à Allah azza wa jal et qui commet des péchés, quel que soit le nombre, peut revenir vers lui et se repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et se repentait à lui plus de 100 fois dans la journée et 70 fois dans une autre version. Ce n'est pas le nombre qui est important, mais ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, purifié par Allah subhanahu wa ta'ala, revenait repentant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est aussi vrai qu'on n'est pas des anges. Et d'ailleurs, Allah azza wa jal nous a pas créé anges, malaïka, à qui Allah subhanahu wa ta'ala qualifie « La ya'asoun Allah ma amarahum wa yaf'alouna ma yu'marun » Ils ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal sur ce qui leur a été ordonné. Ma amaram wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils sont dans la totale application et dans la obéissance à Allah Azza wa Jal. On n'est pas des malaïkas, on est des êtres humains, on commet des péchés, certes. Lorsqu'on commet des péchés, il faut se repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour aller de l'avant. Et si on doit aller de l'avant, c'est qu'on a un exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons et les gens de l'istiqama, de la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on le craigne. At-taqwa, la crainte d'Allah azza wa jal. Et lorsqu'on analyse et qu'on médite Al-Qur'an, on verra que la finalité de toute notre pratique, de notre vie, c'est d'atteindre At-taqwa. Lorsque Allah azza wa jal parle du jeûne, il nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dans le verset 183 de sourate Al-Baqarah, la sourate 2, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Pourquoi ? Pour mourir de faim ? Pas du tout. La'allakum tattaqoun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et dans des versets qui suivent dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla nous parle de l'ensemble de l'adoration qu'elle a pour finalité à taqwa, taqwa Allah Azza wa Jalla. Et cette obéissance et cette crainte d'Allah Azza wa Jalla, l'obéissance doit être selon nos possibilités. Ittaqullaha mastata'tum. Obéissez à Allah Azza wa Jalla selon vos capacités. Car on est des êtres humains, on est faibles, chacun a son évolution, mais on se doit de prendre des repères. Et c'est là notre discussion. Le repère, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens qui ont vécu cette proximité spirituelle avec Allah azza wa jal. Si on dit qu'on n'est pas des gens, certes, et on s'arrête là, on n'y évoluera pas. Le souhait de chacun d'entre nous, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que Allah azza wa jal a facilité la pratique. Il ne faut pas croire que la charia de l'islam est un fardeau, est venue apporter des contraintes, bien au contraire. La charia de l'islam, son fondement, c'est at-taysir, et repose sur la facilité. Et les versets dans le Coran sont nombreux. Allah veut pour vous la facilité, non pas la contrainte. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridukum al-usra. Wa ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj. Il ne vous a pas mis de contraintes dans la religion. Allah veut vous alléger. Et ce qui résume tout cela, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Et donc ça montre bien que cette pratique, la pratique du musulman, est une pratique équilibrée, c'est une pratique du juste milieu qui tient compte de tous les aspects, l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. Vous voyez, on n'est pas dans aucun extrême. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Inch'Allah ta'ala, wallahu a'lam.
Donc le mérite effectivement d'être de nature pécheresse, c'est justement d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir tout repentant et d'accomplir des actes d'adoration qui permettent d'atteindre sa proximité, dont notamment le salat, le thème de ce soir. N'empêche qu'on n'est peut-être pas des anges, mais Allah il a demandé aux anges de se prosterner devant l'homme. Donc on peut peut-être méditer là-dessus sur le fait qu'Allah ait ordonné aux anges de se prosterner. Tout le mérite à l'homme, c'est de revenir repentant devant Allah subhanahu wa ta'ala.
D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'homme. L'être humain a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet honneur, comme tu le dis, Akhi Issa, commence lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges: wa idh qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Donc cette prosternation de reconnaissance, à ne pas confondre avec la prosternation d'adoration, c'est une prosternation de reconnaissance par rapport à la beauté de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, montre toute l'importance de l'être humain, la place qu'occupe l'être humain, l'insan, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yarda li ibadihi al-kufr. C'est très important de savoir qu'Allah azza wa jal n'accepte pas, ne veut pas l'état de mécréance pour ses fidèles. Allah a créé ses serviteurs pour qu'ils l'adorent ou pour qu'ils les fassent entrer en son paradis. Et c'est pour cela que un certain nombre de dérogations nous sont données. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Voilà, si tu commets des péchés, tu es faible, ben, ne désespère pas, reviens. T'as commis un péché, un deuxième, un troisième, un millième, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, ton Dieu, il est miséricordieux. Wa rahmati sabaqat ghadabi. La miséricorde d'Allah devance sa colère. Et ça, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. Avoir à l'esprit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce miséricordieux subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela qu'on doit se tenir devant lui avec humilité.
Voilà. Bah, Farid, il semblerait qu'il y a quelqu'un d'autre, non? Tu me fais signe s'il y a. Il semblerait qu'il y ait un auditeur, je ne sais pas, Farid va nous faire signe. Donc, je rappelle le numéro du standard, 0320 73 59 00. Quelques pistes pour atteindre leur choix. On a donné quelques pistes, je vais le rappeler quand on va reprendre tout de suite après la pause, et on va étendre un petit peu les propositions que les gens sont à même de méditer, Inch'Allah, pour atteindre le choix dans Salat. Farid, tu peux lancer de retour 60 de passe téléphone 90. 19.4, 21h passées d'une trentaine de minutes, il nous reste une bonne demi-heure ensemble, Inch'Allah, jusqu'à 22h. Ce soir, avec Abdel Wahab, qui intervient à l'Institut Iman. On y reviendra sur l'Institut Iman. On se prendra quelques minutes à la fin pour rappeler les activités proposées par cet institut. Le thème de ce soir, c'est le khushu', le recueillement, la concentration. Enfin, il y a plein de termes parce que c'est quelque chose de bien plus complet. On a donné quelques pistes pour essayer de s'approcher de leur khushu'. Bien avant, on l'avait défini. Avant de revenir sur le thème, il y a quelques questions qui ont été posées par quelques auditeurs et auditrices hors antenne pendant la pause. Et je me propose de te les poser et enfin d'y répondre, Inch'Allah. Donc la première question, elle tourne autour de l'interdiction de l'or. D'où vient cette interdiction? Déjà, est-ce qu'elle est fondée? Et est-ce qu'on peut donner quelques éléments de réponse?
A'ouz billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahi r-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En ce qui concerne le halal ou le haram, le licite et l'illicite, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans les 40 de l'imam al-Nawawi, dans lequel il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Al-halal bayyinun, wal-haram bayyinun, wa baynahuma umurun mushtabihat. » Le licite est clair, l'illicite est clair, et entre les deux il y a l'équivoque. Le licite est clair, ça veut dire que le licite a été montré et indiqué par Al-Qur'an et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'illicite, c'est la même chose. Donc, Al-Halal ou Al-Haram, c'est ce qui a été défini par Al-Qur'an, la révélation coranique, ou ce que l'on trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a des éléments liés au licite et à l'illicite qui se trouvent dans Al-Qur'an. Il y a des éléments liés au licite et à l'illicite qui se trouvent dans Al-Qur'an et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des éléments liés au licite et à l'illicite, al-halal ou al-haram, qui se trouvent dans la sunna et non pas dans al-Qur'an. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut obligatoirement deux éléments, les deux sources fondamentales, al-Qur'an et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir l'ensemble de la législation. Et donc, si on n'a pas des interdictions... si on parle d'interdiction dans Al-Qur'an, on les trouvera dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première idée que j'aimerais partager sur ce point, c'est que il faut bien avoir à l'esprit que toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisée, c'est que c'est un bien pour nous. Toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisée, c'est un bien pour nous. Il y a une sagesse, une hikma. La prière, Allah nous l'a prescrite car c'est un bien pour nous. Allah Azza wa Jalla nous a prescrit le jeûne, il comporte ou il porte forcément un bien spirituel, physique, etc. Le hajj, la même chose. Toutes les prescriptions divines ont une hikma, ont une sagesse. Et ce que je voudrais rajouter, qu'on la connaisse d'ailleurs ou pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné toutes les sagesses de ses prescriptions. Mais de par notre foi, on doit être convaincu et avoir la certitude que Allah, le Créateur, nous prescrit, nous autorise que ce qui est bon, al-halal. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quelque chose, al-haram, c'est que c'est mauvais pour nous. Car Allah azza wa jal nous prescrit al-tayyibat, hein, les choses pures. وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. Il nous a interdit les choses impures. Donc ça c'est la première des choses. Donc concernant l'or,
Il me semble que c'est l'interdiction, enfin, j'ai peut-être
pour les hommes,
voilà.
L'interdiction de l'or, ce n'est pas précisé, mais on pense que la question.
Non, c'était pour ça. C'est moi qui a omis d'accord. de.
C'est pour les hommes. Pour les femmes, l'avis majoritaire al-jumhur chez les savants de l'islam, c'est qu'il est autorisé, bien qu'une minorité de savants considère qu'il est interdit. Mais l'avis dominant, c'est qu'il est autorisé. Concernant le port de l'or pour les hommes, il est interdit d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il nous est interdit ici-bas, mais autorisé fil akhira dans l'au-delà. Donc, certes,
on n'a pas forcément toutes les sagesses, les hikmah. Pourquoi il est autorisé pour la femme, pourquoi pas pour la femme, pourquoi pas pour l'homme. Certainement, avec des recherches, on peut trouver la raison. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est faire un raisonnement analogique. Mm-hmm. Que d'autres interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, on connaît aujourd'hui leur raison d'être. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Personne ne peut remettre en cause le bien fondé de l'interdiction de l'alcool. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de regarder les chiffres pour voir que l'alcool, c'est la première cause de mortalité sur les routes en France. D'accord ? Donc, Allah l'a interdit. Personne ne peut dire aux musulmans, voilà, vous ne consommez pas d'alcool, c'est pas bon, hein, c'est mauvais. On voit les dégâts de l'alcool. Le tabagisme rentre dans le même cadre. Donc, toutes les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala ont une raison d'être, une hikmah. Et donc, le musulman, al-mu'min, le croyant, se doit, lorsque cela est fondé, bien évidemment, hein, issu de le Qur'an, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, défini par les savants, lorsqu'une chose est fondée, il doit l'appliquer. Mm-hmm. Le dernier élément que je voudrais préciser, c'est que en termes de licite et d'illicite, al-halal ou al-haram, Allah Azza wa Jal, en ce qui concerne le licite, il y a beaucoup de choses licites. Mm-hmm. L'illicite, c'est peu. Al-haram, il est peu par rapport aux choses qui sont autorisées. Toujours dans mon exemple de l'alcool, Allah interdit cette boisson qui a des conséquences graves. Allah a autorisé les autres boissons, l'eau, les jus de fruits, etc. Mm-hmm. Donc là, c'était les trois points que je voulais préciser par rapport
à cette interdiction. Bakla, fait pour cette réponse très complète. Il y avait une autre question qui a été posée. Tout à l'heure, on avait parmi les pistes à méditer et à développer pour atteindre le khushu, on avait parlé du fait de prendre conscience qu'Allah nous observe. Mm. Et donc, il y a une auditrice qui a appelé, me semble-t-il, un auditeur ou une auditrice, moi, je n'ai pas le détail, mais bon, une personne qui nous a appelé, qui nous a dit, si on est constamment dans l'idée de penser que Dieu nous observe, est-ce qu'à un moment, on va pas tomber dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme ? Non. C'est-à-dire, se représenter Allah sous forme humaine, parce qu'on a besoin de se représenter les choses. Donc elle dit, est-ce que le fait de constamment croire, de respecter le deuxième conseil que tu nous avais donné, est-ce qu'on ne va pas dériver dans l'anthropomorphisme ?
C'est une bonne question. En fait, ce que je voulais dire par là, ce n'est pas se représenter Allah Azza wa Jal. J'ai d'ailleurs précisé qu'on doit avoir à l'esprit qu'Allah nous observe. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, il se qualifie Laïsa kamislihi shay. Rien ne ressemble à lui, subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. Allah, il est tel qu'il se décrit dans le Coran et tel qu'il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. En terme, ça c'est les fondements de l'aqida. De l'aqida, on ne doit pas
à
rentrer dans les détails comment est Allah Azza wa Jal. Ça c'est quelque chose qui est proscrit dans la sharia de l'islam. Allah, il est tel qu'il est, qu'il s'est défini dans Al-Qur'an à travers ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Cela étant, Allah Azza wa Jal nous fait voir sa puissance, sa grandeur, à travers sa création. Et c'est là, notre foi, elle est basée sur ça. À travers ce que l'on observe autour de nous, al-ayat, vous voyez, il y a deux types de signes, ayat. Il y a des signes qui sont lus dans le Coran, al-ayat al-maqru'a, ou al-ayat al-manshura. Il y a des signes qui sont étendus, c'est-à-dire à travers ce que l'on voit au quotidien, mm-hmm. à travers la création. Des cieux, de la terre, de l'être humain, l'espèce végétale, animale, etc. La beauté de la création d'Allah Azza wa Jal témoigne de sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà Allah Azza wa Jal, et il ne faut pas penser qu'on doit se représenter Allah subhanahu wa ta'ala, loin de là. C'est juste avoir ce sentiment au fond de nous-mêmes que Allah, le Créateur, nous observe. Mm-hmm. Et comme on connaît Allah, et c'est ça qui est important, Et ça montre que avant de passer à la pratique, mm-hmm. il faut connaître
Allah, bah oui.
subhanahu wa ta'ala. L'importance de l'aqida, de la connaissance d'Allah Azza wa Jal.
L'adoration commence par la connaissance.
Innama yakhsha Allaha min ibadihi. Regardez le terme. Yakhsha. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent véritablement Allah sont les connaisseurs, al-ulama. Donc on doit connaître Allah Azza wa Jal pour pouvoir le craindre et pouvoir se présenter devant lui en ayant conscience qui est le plus grand subhanahu wa ta'ala.
Il y avait une autre question sur la concentration, puisque c'est ça hein, aussi le khushu, c'est le fait de une dame qui disait que elle a le sentiment d'être relativement concentrée dans ses prières, et à tel point que dans l'idée de parfaire son acte d'adoration, elle en arrive à douter d'un certain nombre de choses, notamment est-ce qu'elle a bien fait ses ablutions, est-ce qu'elle a pas oublié ses oreilles, est-ce qu'elle a bien fait son visage, ou est-ce qu'elle a bien fait le nombre de rak'at. Le doute l'assaille de part et d'autre dans ce souci de bien faire les choses. Donc il y a le doute qui s'installe.
Donc dans notre cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la prière, il faut savoir qu'on a un ennemi, justement, qui veut nous barrer la route, qui ne veut pas qu'on vive ce sentiment spirituel et cette proximité avec Allah azza wa jal, c'est un shaitan, Iblis. N'oubliez pas que on va parler de prière, on va parler de prosternation à sujoud. Et la prosternation, c'est ce qu'il s'est refusé de faire devant le terme sujoud, la prosternation de reconnaissance devant Adam. Donc, Shaitan, lorsqu'on vient à prier, il se présente, il essaye par tous les moyens de nous perturber, de nous déconcentrer, de nous faire douter à chaque. Et nos savants ont définit un chapitre sur Ashuk, la notion du doute. Mm-hmm. Hein? Et bien évidemment, en termes de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le doute doit être basé sur al-yaqin. Yabni l'isana al-yaqin, la certitude. On ne doit pas quitter la prière, par exemple, si on a l'impression d'avoir annulé ses ablutions, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si on a on a vérifié que on a annulé ses ablutions. Et le prophète est explicite, il nous dit par le fait qu'une odeur se sent, mm-hmm. d'accord, ou on entend un bruit. Mm-hmm. Donc pour éviter justement qu'on ait ce doute dans la prière, mm-hmm. qui me dit que en refaisant ma prière, je n'ai pas encore ce doute. Mm-hmm. Donc le doute ne doit pas être pris en compte. Et il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle al-waswas, qui ont constamment le doute. Est-ce que j'ai les ablutions? Je n'ai pas les ablutions. Ces personnes-là, qui sont considérées comme étant malades, ce n'est pas de l'ordre de l'occasionnel, c'est tout le temps, mm-hmm. matin, midi et soir, qui doutent. Les savants disent que ces gens-là font abstraction du doute, à chaque. Mm-hmm. Ah, j'ai les ablutions. D'accord. Et ils font leurs ablutions avant chaque prière. Mm-hmm. Et voilà, la pratique est facilitée. La pratique est facilitée. Allah mm-hmm. subhanahu wa ta'ala veut de nous une pratique, yani, du juste milieu, une pratique qui mm-hmm. est équilibrée. Et il ne veut pas nous peiner, subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. Et subhanallah, lorsqu'on observe le Coran, on voit que beaucoup de versets traitant de l'ahkam, des règles pratiques, juridiques, etc., finissent par la notion de facilité. Mm-hmm. Allah Azza wa Jal, après avoir parlé du jeûne du mois de Ramadan, c'est bien fait que le voyageur et le malade peuvent ne pas jeûner et rattraper le jour ultérieurement. Il finit le verset 185 de Sourate Al-Baqarah en disant « Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ». Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la contrainte. Mm-hmm. De même, dans les versets dans Sourate Al-Ma'ida, la table servie, et Sourate Al-Nisa, qui traite de la purification, At-Tahara, Allah finit ces versets parlant de la pratique, traitant de la pratique, par nous dire Allah veut vous purifier, il ne veut pas vous contraindre. Mm-hmm. Donc voilà, inshallah ta'ala, ce qu'on peut dire sur le doute à chaque. Et il ne faut pas, inshallah ta'ala, être perturbé par cet excès de doute. Mm-hmm. Cela est codifié par les règles de le faire. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails.
Bon, en tout cas, il faut se baser sur la certitude, notamment pour les ablutions. C'est un très bon exemple. Il faut être sûr de les avoir perdus pour. On va reprendre le thème de ce soir sur le khushu'. On avait dit, on avait donné quelques pistes, notamment le fait de première des choses pour atteindre. Pour du moins s'approcher de le khushu', en espérant, bien sûr, c'est un idéal qu'on se donne toute une vie pour atteindre, inchallah, délaisser les désobéissances, les péchés pour atteindre justement pour pouvoir s'approcher, notamment de s'approcher de la lumière et à travers la science aussi. Donc, délaisser les désobéissances, prendre conscience qu'Allah nous observe. Dans nos activités, notamment pendant la salat, on s'adresse à Allah, Allah est devant nous, et notamment aussi sur l'apprentissage et la méditation du Coran. Ça, c'est primordial. On avait rappelé sur les bienfaits de marquer des pauses à chaque verset de la Sourate Al-Fatiha, qui est un pilier, qui est une obligation dans chaque prière. Il y a un dialogue qui s'installe, et il faut prendre conscience que ce dialogue s'installe entre notre Créateur et nous-mêmes. D'autres pistes, Charles?
Non, donc le quatrième élément favorisant al-khushu', c'est un élément important, c'est le fait de penser à la mort et à l'au-delà. Tadakkur al-maut, le fait de penser à la mort, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la mort suffit à éveiller les consciences. Et le Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon que vous connaissez certainement, Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu,
Je vais juste interrompre avant d'écouter le hadith de Umar ibn Khattab. Il y a une personne qui est à l'antenne, on va la prendre, on va privilégier le direct. Oui, allô?
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir.
En fait, je voulais poser une question. Il y a ma soeur qui a ses enfants qui se parlent plus et ils se disputent, ils se détestent entre eux. Et je ne sais pas quoi faire en fait. Je ne sais pas quoi faire, quoi conseiller de donner aux enfants en fait.
Donc les enfants qui se sont
disputés. Les enfants ils font la prière et tout, mais à côté ils font ça. C'est qu'on n'a pas compris.
Donc ils se sont disputés avec leur mère.
Non, mais non, entre eux.
Ah, entre eux, pardon.
Entre eux, ils ne se parlent pas. Ils se parlent pas, ils se disputent tout le temps. Mais à côté, ils font la prière et tout, ils sont déjà. Ils se vivent bien, mais à côté.
Ils n'auront plus le moindre contact entre eux et malgré le fait qu'ils.
Ils sont à l'âge. Ils sont encore à la maison, ils ne sont pas mariés et tout.
C'est des adolescents, des enfants, ils sont adultes?
Comptez des vingtaines, la trentaine.
La trentaine? Ah oui, donc c'est des adultes.
Ce sont des adultes. Jusqu'à la trentaine.
D'accord.
En fait, c'est des adultes. En fait.
Qu'Allah les guide, Inch'Allah, ta'ala.
Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez donner un conseil aux enfants et que je la rejette pour elles?
D'accord. Bah restez à l'écoute et donc on va aborder la question, bien entendu. Merci pour avoir appelé.
Merci
à vous. Donc,
concernant les relations que l'on a avec nos proches, qui sont très très importantes, il faut faire attention justement que Shaytan justement vise à ce qu'on coupe les liens de parenté, les liens fraternels, les liens du sang. Donc il va utiliser un certain nombre d'outils, un certain nombre d'artifices pour essayer de casser justement cette relation qui est noble. On doit avoir la relation avec Allah Azza wa Jal qui est la plus importante, la relation avec soi-même et la relation avec autrui qui commence par la cellule familiale. La cellule familiale, les parents, les frères et les sœurs. Donc il faut se cantonner, Inch'Allah ta'ala, et rechercher cette cohésion. Cette cohésion et ce lien fraternel. Et donc, lorsque cela arrive, lorsqu'il y a une séparation, lorsqu'il y a une querelle, lorsque des personnes, des membres d'une même famille, ou d'autres personnes ne se parlent plus, la règle en islam, c'est as-sulh, la réconciliation. Allah Azza wa Jal nous dit, dans un des versets du Coran, was-sulhu khayr, la réconciliation est meilleure que la division, car l'islam vise à l'unité. Des cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans sourate Al-Hujurat, la sourate des appartements, wa in ba'da'uz billahi minash shaytanir rajim wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Lorsque deux factions parmi les croyants
se disputent,
تَتَلُوا, hein, même vont jusqu'au combat, mm-hmm. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Vous devez réconcilier entre eux. Donc le musulman se doit au quotidien, justement, lorsqu'il le peut, réconcilier entre les gens. Il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ? بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن. Avec sagesse et pédagogie. Donc, lorsqu'on n'a pas les mots, lorsqu'on sent qu'on n'est pas apte, vaut mieux déléguer cette fonction à quelqu'un d'autre qui est plus à même, justement, de trouver les mots qui apaisent les cœurs. Mm-hmm. Pour trouver les mots de bien, l'ihsan. Et cela, bien évidemment, permettra de réconcilier entre les gens, notamment en rappelant que Allah Azza wa Jal donne une importance au lien fraternel, al-ukhuwa. Hein, on ne peut pas, jusqu'à quand il est interdit de délaisser son frère musulman,
hein,
ou sa sœur, hein, bien évidemment, plus de 3 jours. Là, il y a un jour, akhahu talat, fawqa talat. On n'a pas le droit de délaisser plus de 3 jours. Donc, pendant ce moment-là, il faut la réconciliation. S'ils ne peuvent pas se réconcilier entre eux, c'est aux membres de la famille, c'est aux gens qui les entourent, justement, les plus proches, s'ils le peuvent. Sinon, ils font un appel à quelqu'un de compétent, par exemple à un imam. C'est un exemple parmi d'autres, justement, dans la voie de réconcilier entre eux. Mais il faut surtout leur dire que Allah Azza wa Jal ne veut pas la division. La division cause toujours du mal. La division est nuisible, alors que l'unité permet de souder les corps et les cœurs. Wallahu a'lam.
Baklaw fait que pour cette précision, en priant Allah de faciliter leur situation et la baraka dans leur famille, inchallah. On va reprendre pour les 5-6 minutes qui nous restent la suite. Donc on était en train de dire qu'il fallait penser constamment à l'au-delà, à la mort en l'occurrence, et on était en train de citer.
On est en train de parler de Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Qui pensaient souvent à la mort, al-maut, comme les compagnons dans leur généralité. Ils ont suivi la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté de Umar ibn Khattab, dans sa description physique, il avait 2 traits noirs sur son visage. Khattan aswadan. Tellement il pleurait, radiyallahu ta'ala anhu, en pensant à l'au-delà. Et en récitant Al-Qur'an et en méditant les paroles, les versets coraniques. Omar al-Khattab avait une bague sur laquelle était inscrit, gravé, Omar. Kafa bil mawti wa'idan ya Omar. La mort suffit comme rappel au Omar. Il avait cette bague qu'il regardait tous les jours. Il se rappelait Al-Mawt, car la mort permet, le fait de se rappeler la mort, ça permet d'adoucir les cœurs. Et donc, lorsqu'on se rappelle Al-Mawt, et le premier passage c'est obligé pour l'akhira, c'est Al-Qabr, la tombe, qu'on va être dans la tombe, on ne peut que être humble dans notre prière devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cela a amené certains savants à dire As-salatu min al-akhira. La prière fait partie de l'akhira. Fa'idha dakhalta fiha kharajta min ad-dunya. Lorsque tu entres dans la prière, tu sors du dunya. Car en fait, as-salat silatun bayna al-'abd wa rabbih. C'est de l'ordre du spirituel. La première chose sur laquelle tu vas être jugé, c'est la prière. Donc ça fait partie de l'akhira. Donc lorsque tu t'engages dans la prière, dès le takbir, lorsque tu vas dire Allahu Akbar, prends conscience que tu quittes ce bas monde. Ne pense plus au rendez-vous. Ne élimine toutes les choses qui pourraient nuire ta concentration dans la prière. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous entendez les imams, avant de commencer la prière, dire Salli salat muwaddi'. Salli salat muwaddi'. Fais la prière de quelqu'un qui va faire les adieux à ce bas monde. Comme si c'était ta dernière prière. Donc, si on sait que c'est notre dernière prière, comment elle va être? On va essayer, mais on sait que dans la prière de l'Maghrib ou de l'Isha, ça va être ma dernière prière. Hein? Ya Abdul Wahhab, ça va être ta dernière prière. Donc, on va essayer, inshallah, de se concentrer, de lire Al-Qur'an en le méditant, en se recueillant dans la prière, en donnant à chaque position son dû, Al-Ruku' ou Al-Sujud, car ça va être notre dernière prière et on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut faire attention et méditer les paroles de l'imam avant le début de chaque prière. Des fois, certains pensent que c'est habituel. Ah, qu'est-ce qu'il dit l'imam? Allahu alim. Donc, inshallah ta'ala, il faut bien avoir à l'esprit l'akhirah et l'maut. Le cinquième élément, c'est de s'efforcer de faire l'adhiya, l'ad-du'a, l'invocation. Ad-du'a mukhul ibad, l'invocation est la base de l'adoration. Et l'invocation permet justement de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les invocations qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la suivante. Allahumma inni a'udu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udu bika min ilmin la yanfa'. Ô Allah, je te demande au refuge de me protéger contre toute science qui n'est pas utile. Wa min qalbin la yakhsha'. Ainsi que d'un cœur qui n'est pas recueilli, qui n'est pas humble devant Allah Azza wa Jal. J'en veux pas de ce cœur qui n'est pas humble devant Allah Azza wa Jal. Wa min batnin la tashba', ainsi que d'un ventre qui n'est pas rassasié. Wa min du'a'in la yustajabu laha, ainsi que d'une invocation qui est exaucée, qui n'est pas exaucée. Donc ad-du'a, l'invocation justement va nous permettre, en demandant Allah Azza wa Jal, en étant sincère dans son invocation, de demander ya Rabbi, je veux être recueilli dans ma prière, aide-moi. Et on a toujours besoin de cette aide d'Allah Azza wa Jal, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné au noble compagnon Mu'ad ibn Jabal cette invocation que je vous transmets, à dire après chaque prière obligatoire: Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à t'être reconnaissant et à parfaire ton adoration. Donc l'invocation est un élément important.
Farid, il semblerait qu'il y ait encore un auditeur ou une auditrice. Ce sera la dernière ce soir. La dernière personne. Oui, allô?
Oui, bonsoir. Voilà, j'ai une question à vous poser. Ça fait 8 ans que je suis séparée de mon mari. Et j'aurais aimé refaire ma vie. Mais on m'a dit que c'est pas possible parce que je suis pas divorcée ni à la française, ni au nom de la loi musulmane.
Vous pouvez expliciter? Comment ça, fait quoi, ça fait 8 ans que vous êtes divorcée. Vous avez des papiers?
Je ne suis pas divorcée, je suis séparée légalement.
Mais tant que le divorce n'est pas prononcé, en France, vous ne pouvez pas vous marier avec une autre personne.
Je ne vais pas me marier, je vais faire vivre en concubinage plutôt.
Alors, faites attention. L'islam n'envisage une relation entre un homme et une femme que dans un cadre légal, qui est celui du mariage, al-zawaj. L'islam interdit et proscrit toute relation qui n'est pas dans le cadre du mariage. D'accord, ce qui est al-zawaj. Et pour que ce mariage soit valide, il doit bien évidemment remplir un certain nombre de conditions. D'accord, vous devez bien évidemment faire l'acte civil. Hein, on est.
Il faut passer à la mairie.
Il faut passer à la mairie, chose qui est obligatoire dans ce pays. À cela s'ajoute bien évidemment les points islamiques, notamment la dot, les deux témoins, les choses habituelles, les deux témoins, al-ijab ou al-qaboul, l'assentiment et l'approbation, la dot. Donc ces éléments-là. Donc l'islam ne considère pas ce qu'on appelle l'union libre.
D'accord.
L'union libre ou le concubinage. Vous avez le droit aussi de vous unir à quelqu'un, à un homme en l'occurrence, en dehors du cadre du mariage. Zawaj, qui doit être validé par les règles précédemment citées. Wallahu a'lam.
Voilà.
Merci à vous.
Et bonsoir.
Au revoir, bonsoir. Donc ça aurait été la dernière question, il est 22h.
Les quelques points qui...
Vas-y, on va déborder de 2-3 minutes, vous nous permettez, Sidi-moi, il fait un peu la tête, mais je m'impose. Non, pas Clof, Sidi-moi, on va donner le relais tout de suite. Après, juste pour terminer les recommandations.
Voilà, juste encore quelques éléments pour favoriser Al-Khushu'a. C'est d'abord éliminer tout ce qui pourrait nous distraire. Donc, géographiquement, lorsqu'on est dans une pièce, il faut éliminer tout ce qui pourrait nous distraire. La télé, la radio, le portable, hein, les SMS. Et d'ailleurs, subhanallah, on remarque dans les mosquées, puis le masajid, que le portable est un élément, hein, technologique, qui rend pas mal de services, dans le cadre de la prière, des fois, est nuisible justement à ce khushu'. Et malgré que l'imam rappelle aux gens d'éteindre leur portable, on trouve encore des gens qui, leur portable sonne, même après la recommandation de l'imam avant la prière. Mmh. Donc il faut éliminer en fait tous les éléments, hein, de façon générale, tous les éléments qui pourraient perturber notre concentration dans la prière à côté de nous. Il faut également éviter les lieux où on discute. Hein. On ne peut pas imaginer une prière recueillie dans un endroit où les gens parlent. Discute des bienfaits de ce bas monde ou d'autres choses, de commenter l'actualité, et moi je suis en train de faire la prière. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on fait la prière, on doit être dans un lieu propice et favorable au recueillement. Je passe assez rapidement vu le temps. Il faut également éviter de se mettre en prière lorsqu'on a faim, lorsque le repas est servi ou lorsque on a une envie d'aller aux toilettes, car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit cela. Le fait de prier tout en pensant à la nourriture ne favorise pas al-khushu'. Donc il faut éviter cela. La même chose lorsqu'on a sommeil. Si on a envie de dormir, il faut se reposer un peu, un léger moment, d'accord, avec l'intention de se réveiller pour prier dans une meilleure situation. Et le dernier conseil que je vous recommande, ainsi que moi-même, c'est de penser à la prière de nos pieux prédécesseurs. Nos pieux prédécesseurs, en commençant par celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, on entendait un bruit tel une marmite en ébullition, tellement il était envoyé par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté que Abdullah ibn Zubayr, pour citer assez rapidement quelques exemples, Abdullah ibn Zubayr, lorsqu'il priait, il se tenait debout comme un bâton. Les oiseaux venaient se poser sur lui, croyant que c'était un tronc d'arbre. Hatim al-Asam, il est très célèbre en matière de khushu'. Hatim al-Asam, on lui posa la question, Kayfa tusalli, comment tu pries? Alors lorsqu'on pose à quelqu'un d'entre nous comment tu pries, on va développer la pratique, l'inclinaison, la prosternation, la récitation. Il dit, j'arrive dans ma prière avec sérénité. Je rentre, je fais le takbir avec recueillement. Je lis la récitation, je récite Al-Qur'an lentement. Je fais l'inclinaison avec khushu' et itminan, avec apaisement. Aussi la prosternation. Je considère et je me mets dans une ambiance où... il se met dans une ambiance où Al-Jannah est sur sa droite, le paradis à sa droite, l'enfer à sa gauche, le pan à Sirat sous ses pieds, Malak al-Maut, l'ange de la mort, qui est derrière lui pour enlever son âme, et que Allah Azza wa Jal mutali'un alayhi, et que Allah Azza wa Jal l'observe. Il fait sa prière ainsi, et lorsqu'il finit, il dit Assalamu alaykum, il se dit, je ne sais pas si ma prière a été acceptée ou pas. La adri, aqubila salati amla. Je ne sais pas si ma prière a été acceptée ou pas. Voilà donc, inshallah ta'ala, quelques éléments sur ce noble sujet que je vous demande d'approfondir. Bihamdulillahi azza wa jal, walhamdulillahi rabbil alamin.
Bakallahu fik, Abdel Wahab, effectivement, on a débordé de quelques 5 minutes sur un thème aussi important et profond que la quête du Khushu'. On aura, inchallah, d'autres occasions. Ce sera d'ailleurs l'excuse honorable de pouvoir t'accueillir pour approfondir, inchallah, sur ce thème. On aurait voulu parler très rapidement de l'Institut Iman, puisque tu interviens là-dessus. 30 secondes,
30 secondes sur l'Institut Al-Iman. L'Institut Al-Iman est un centre de formation aux sciences islamiques, notamment la croyance musulmane, la aqida, la pratique musulmane, justement, la jurisprudence, la sira, la vie du prophète, qui est très importante pour être en lien direct avec la période de la révélation, ainsi que la spiritualité, la langue arabe. La langue arabe qui est un élément très important pour cheminer dans sa religion, et d'autres activités telles que des séminaires, des conférences qui sont proposées. Donc on vous invite, Inch'Allah Ta'ala, à vous rapprocher de la mosquée Al-Iman, la Ligue Islamique du Nord, pour avoir des informations sur l'Institut. Et il y aura, Inch'Allah Ta'ala, on vous tiendra au courant par l'intermédiaire notamment de l'émission, de la journée porte ouverte qu'on va la faire à la rentrée pour mieux vous exposer les différentes activités de l'Institut. Et on vous recommande vivement de vous inscrire, Inch'Allah Ta'ala. Walhamdulillah Rabbil Alamin.
En rappelant aussi qu'à la rentrée, il y aura la grande période du Ramadan, donc on organise, on est en train de mettre en place, si c'est de mettre un programme, auditeurs, auditrices, si vous voulez y voir, y écouter surtout des thèmes particuliers pendant ces périodes de Ramadan, vous pouvez toujours nous joindre à la maison des associations, ou bien ici sur les ondes de Passe Téléphone 03 23 59 00, prochaines émissions, on est bien sûr à votre disposition pour essayer de mettre un certain nombre d'interventions qui vous apportent un maximum de choses, Inch'Allah. On va s'excuser pour la dernière fois, l'émission Safina qui va prendre le relais tout de suite après, proposée par le JMF section Tourcoing sur la culture du chant religieux. Il est 22h passé de 7 minutes. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, à partir de 20h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.